Radio Star Berlin.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et nous sommes très américains, nous aussi, ce soir, dans Un jour dans le monde. On va se concentrer avec nos invités sur la réponse de Trump à l'attentat d'hier soir. Donc, sa lecture de son pays, des attentats auxquels il est confronté, comme nous tous. Nous sommes notamment avec Sylvain Sipel, qui nous a rejoint. On parlera à Grégory Phillips, aussi, qui est en direct pour nous, à New York. À 18h40, nous allons également dans le Rif marocain. Ce sera l'escale sonore d'Un jour dans le monde. Le Rif est cette région tendue à l'extrême depuis un an. La chronique du jour Journal Le Monde, celle de Sylvie Kaufmann, 18h55. Le monde est vaste et parfois triste.
Fabienne Saint-Fès, Un jour dans le monde.
It's a very painful day in our city. Horrible tragedy on the west side. Let me be clear that based on the information we have at this moment, this was an act of terror and a particularly cowardly act of terror.
Voilà, un jour triste, c'est ce que dit Bill de Blasio, le maire de New York, c'était hier soir. Un acte terroriste, un acte lâche, dit-il. Et s'il a tant d'impact, c'est aussi pour le symbole de la ville, on le dit beaucoup depuis hier. New York, jamais touché depuis le 11 septembre. Mais le pays, lui, n'a pas été épargné ces derniers temps par le terrorisme, qui concerne évidemment aussi les États-Unis. Et ce qui nous intéresse particulièrement ce soir, c'est la réponse, j'ai envie de dire étonnante, et en même temps, qu'est-ce qui nous étonne désormais chez Donald Trump? La réponse de Trump, donc, qui justement entend protéger son pays en surveillant surtout des entrées, peut-être en oubliant un peu vite que c'est à l'intérieur, comme chez nous d'ailleurs, que les radicalisations se font. Bonsoir Sylvain Sipel.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialisé bien sûr dans les États-Unis où vous avez beaucoup travaillé. On va l'entendre Donald Trump, ce sera tout à l'heure dans le journal de Sébastien Paour à 19h. Votre réaction quand même, on n'est pas très étonné de cette manière de parler d'abord de la fameuse loterie de la carte verte, parler d'abord d'immigration sans parler, sans prononcer quasiment le mot de terrorisme.
Oui. Trump n'a qu'une méthode politique. Hein. S'il était en France, on dirait que c'était l'expression favorite à l'époque de Sarkozy. Il hystérise les rapports politiques. Bon, à côté de Sarkozy, ça n'a rien à voir. Oui. Je veux dire, tout à fait à une autre échelle. C'est-à-dire qu'il ne sait pas faire autre chose que d'exploiter les antagonismes. Dont il espère tirer un bénéfice politique. Il ne le fait dans aucun autre objectif. On sait qu'il peut mentir de manière pathologique. Ce qu'il a fait là, donc il a attaqué un sénateur démocrate, Schumer, qui est sénateur de New York. Bon, c'est pas un hasard s'il a attaqué le sénateur de New York, évidemment, et qui proposait de renforcer le chapitre lié à la diversité dans la loi migratoire en vigueur actuellement. C'est une très vieille loi il a accusé Schumer de vouloir accueillir n'importe qui. La diversité, c'est simple. C'est une loi. Je ne sais pas si les gens peut-être ne le savent pas, mais sur les 50 années qui se sont passées depuis 1965, 52 années, il y a eu plus de 60 millions d'immigrés qui sont rentrés légalement aux États-Unis. Je ne parle pas des 11,5 millions d'immigrés illégaux. Et donc, ces immigrés rentrent selon des critères différents. Et parmi les critères, il y en a un qui concerne peu de monde, qui concerne à peu près 50 000 par an. Voilà. Donc, sur 1,2 million, si vous voulez, une moyenne de 1,2 million sur 50 ans, sur un demi-siècle, chaque année.
Et ces fameux 50 000, c'est le fameux tirage au sort de la carte verte.
C'est le tirage au sort. Alors, il y a des conditions pour pouvoir participer à ce tirage au sort, mais le tirage au sort, pourquoi a-t-il été institué? Il a été institué pour faire en sorte que l'immigration soit beaucoup plus diverse. C'est-à-dire que on regarde quels sont les pays où il y a eu peu de gens originaires de ces pays-là qui ont émigré dans les 10 années précédentes aux États-Unis. Et on leur donne une petite faveur supplémentaire. 50 000 places, ça fait, sur 1,2 million, ça fait du 4%, si vous voulez. Donc c'est peu nombreux, mais ça a été aménagé, il faut peut-être le rappeler, par le sénateur démocrate Ted Kennedy, et par le président Bush père. Ça a été donc c'est pas, si vous voulez, Schumer n'a rien inventé, ça n'est pas Schumer qui en est.
Le système existe depuis plus de 20 ans, c'est ça. C'est un moment, c'est
non,
ça.
Non, il existe depuis 50 ans. Mais il a été codifié depuis 20 ans de manière un peu plus de 20 ans de manière définitive. Enfin, tel qu'il existe aujourd'hui, c'est depuis 20 ans. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Et donc, ce qu'il sait faire, c'est bénéficier de cet attentat, enfin, ou tenter d'en bénéficier, pour antagoniser les rapports politiques à l'intérieur des États-Unis et faire croire que c'est la politique démocrate et la politique de ses adversaires qui est à la source de cet attentat.
C'est pour ça que le mot terroriste n'est pas utilisé. Il parle d'animal, il ne parle pas de terrorisme. Il ne dit rien sur ce que l'on sait déjà, puisque le FBI l'a dit. Cet homme préparait cet attentat, c'était bien prémédité. Il n'était pas dans les tuyaux. Il n'était pas dans les tuyaux, c'est vrai.
Il n'était pas dans les tuyaux. Ils ont mis du temps à dire exactement qui c'est. On sait aujourd'hui qu'il serait ouzbek, c'est même pas encore acquis. Hein. Il a une trentaine d'années. Il fait un attentat en sortant du véhicule avec un jouet, avec un revolver joué à la main.
Paintball, non, c'était pas un paintball.
À la main. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, c'est, je veux dire, si ça a été préparé, mûri de manière organisée avec Daesh, c'est quand même un attentat relativement bizarre. Cela étant, ça peut être un attentat dans lequel la personne qui le commet silence éperdument et en s'identifiant à Daesh. Ça, c'est pas du tout exclu.
On dit qu'on a retrouvé l'espèce de modus operandi, en fait, tel que Daesh le décrit, l'a mis sur le net en suivant pas à pas chacune
des choses.
Oui,
c'est ce que je dis. Ça peut être quelqu'un qui, effectivement, s'est décidé à commettre cet acte. Vous savez, par exemple, il y a eu un attentat à San Bernardino qui a fait 14 morts et une vingtaine de blessés, autant que je me souvienne. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si ça a été organisé, commandité par Daesh, ça a été revendiqué par Daesh, et les gens qui l'ont commis l'ont revendiqué, mais on ne sait pas si ça a été organisé par Daesh, ou si ce sont des locaux en Californie qui ont décidé de le commettre et de le revendiquer au nom de Daesh. On n'en sait rien.
Même par rapport à Orlando aussi.
Par rapport à
c'est
Orlando.
C'est vrai aussi d'Orlando, absolument. C'est vrai aussi d'Orlando.
Et c'est Bob Vallier qui vient de parler. Je ne vous ai pas présenté, Monsieur Vallier, parce que vous venez d'entrer dans le studio, vous représentez les démocrates en Europe. Pardon de poser la question comme ça, je vais y mettre beaucoup de guillemets, mais c'est le jour d'Halloween, il va y avoir une parade. Est-ce qu'au final, on ne peut pas se dire... alors, il y a 8 morts, hein, je n'occulte absolument pas ça, mais il aurait pu faire beaucoup plus de mal, ce monsieur, à New York, ce soir-là.
C'est tout à fait possible. Halloween est un jour férié très important aux États-Unis, pour les enfants surtout. Mais je parlais avec des amis à New York hier soir et cet après-midi et ils m'ont dit que le parade Halloween a continué.
Bien
toutes
sûr.
Les activités, les festivités d'Halloween a continué comme si rien ne s'est passé.
Et le marathon aura lieu dimanche comme prévu.
Voilà.
Ou samedi, dimanche.
C'est un attentat qui a lieu sur le modus operandi de Nice.
Hein, absolument.
De l'attentat de Nice, c'est à peu près le même modus. Or, comparé à Nice, si vous voulez, c'est un petit attentat, fort heureusement. Mais c'est un petit attentat quand on compare
à Londres.
Au nombre de victimes de l'attentat de Nice.
Bob Vallier, moi j'aimerais bien avoir votre réaction, on en parlait à l'instant avec Sylvain Sipel, votre réaction à la manière dont Donald Trump a réagi en accentuant tout sur l'immigration, en éludant presque en fait, le problème du terrorisme, en ne prononçant même pas le mot de Daesh, en ne prononçant rien de tout ça.
Donc il n'a pas prononcé le mot Daesh ou ISIS, on dit en anglais, mais quand même, il était un peu typique pour Donald Trump. Donc, il n'a pas dit qu'il y avait des victimes, il n'a pas exprimé son tristesse. Il a tout de suite mettre la responsabilité au pied de Chuck Schumer. Et il a utilisé la situation pour demander une action législative. C'est intéressant qu'après Las Vegas, la réaction de Donald Trump et les républicains était « maintenant, c'est pas le temps de faire quelque chose ». Mais après cette petite attentat à New York, la réaction est « il faut faire quelque chose législatif ». Donc, il politicise la situation et il ne s'exprime pas d'une manière qui est très présidentielle. Il a apparemment tweeté en réaction de l'en direct de Fox and Friends ce matin, avant même d'avoir le Presidential Daily Brief, c'est le dossier quotidien de sécurité.
Le briefing quotidien de sécurité.
Je vais juste dire un mot,
bien sûr.
C'est que, je ne sais pas si vous avez vu la réaction démocrate, mais la réaction démocrate a été simple, c'est de dire que dans le projet de budget présenté par l'administration Trump pour l'année à venir, le budget de la lutte contre le terrorisme a été réduit.
Voilà.
Si vous voulez.
Et on ne parle pas du tout de lutte contre le terrorisme en ce moment aux États-Unis. C'est ça aussi peut-être qui nous étonne quand on fait les différences avec ce qui peut se passer chez nous.
Je ne serais pas d'accord. On en parle. On ne peut pas dire qu'on ne parle pas. Si vous voulez, ça a eu, je veux dire, San Bernardino, Orlando, ça a eu un impact au moment de l'attentat, c'est même pas un attentat, c'est une tuerie collective qui a eu lieu à Las Vegas. L'idée que ça puisse, alors évidemment, depuis on n'en parle plus, mais c'est vrai que l'idée que ça puisse être un attentat de Daesh a été émise très vite après que ça ait lieu. Donc c'est quand même quelque chose qui préoccupe l'opinion américaine, c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, maintenant est intégré dans la manière de penser et de réfléchir des Américains lorsqu'il y a un acte de ce type. Alors évidemment, il faudrait rappeler une chose, c'est que les Américains sont incroyablement habitués aux tueries collectives. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y en a plus de une par jour. Et elles ne sont pas commises par des gens de Daesh, elles sont commises par des gens... Alors, en général, on en parle quasiment très peu, c'est même dans les journaux locaux qu'on en parle. On n'en parle pas nationalement, parce qu'il y a un ou deux morts et 400 blessés. Mais c'est quelque chose de très fréquent. C'est vrai qu'il y a une accoutumance à ce type de tragédie. Donc il faut que ce soit quelque chose d'extrêmement frappant.
Et du coup, qu'on ne différencie plus, vous voulez dire, ce qui est du domaine de la tuerie de masse, qui est absolument terrible aussi, et du terrorisme islamiste.
Quand ce type fait ça, moi je vous dis moi-même ma réaction, comment je vais savoir si c'est un tueur qui décide de flinguer ? Ça arrive constamment aux États-Unis. Il y a un site internet qui recense le nombre d'attaques, de meurtres collectifs de ce type, si vous voulez. Il y en a plus de un par jour. Il y en a eu en 2016 420 ou 430.
Je voudrais qu'on aille aux États-Unis retrouver Grégory Phillips, qui est le correspondant de France Inter et qui est évidemment à New York. Grégory, on parlait de mesures de sécurité à l'instant. On parlait évidemment d'immigration parce que c'est là que Donald Trump a appuyé son discours. Il faut rappeler quand même que précisément, les mesures d'entrée aux États-Unis, tout récemment, la semaine dernière, ont été extrêmement renforcé.
Oui, Fabienne, je crois que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de voyager aux États-Unis. Vous savez ce que c'est l'arrivée à la douane, à JFK ou dans d'autres aéroports. C'est toujours compliqué. Mais là, depuis le 26 octobre, ça va l'être encore plus. D'ailleurs, les compagnies aériennes le savent parce qu'il y a effectivement un renforcement des contrôles demandés par les autorités américaines avec désormais des entretiens au comptoir d'enregistrement, des questionnaires supplémentaires, une fouille plus poussée pour certains passagers. Ces mesures sont en train d'être mises en place ou vont l'être progressivement. Et d'ailleurs, plusieurs compagnies demandent maintenant aux gens qui arrivent aux États-Unis, ou qui partent aux États-Unis plutôt, de s'enregistrer beaucoup plus tôt, 4 heures à l'avance, parce que c'est au départ que vous risquez de subir ces fouilles ou ces questions.
Alors, mais est-ce qu'il y a moyen de faire plus parce que c'est ce que sous-entendait Donald Trump à ce stade-là. Est-ce qu'on peut faire encore plus et plus de restrictions dans les aéroports pour arriver jusqu'aux États-Unis?
Alors c'est ce qu'il a demandé hier aussi dans un tweet. Il a demandé effectivement au ministère de la Sécurité intérieure de réfléchir à aller vers encore plus de contrôles. Faut voir jusqu'où ça peut aller. Vous savez qu'il y avait une tentative d'interdire les ordinateurs portables à bord des avions en provenance d'une dizaine de pays ou d'une douzaine de pays, je me souviens plus exactement. Finalement, l'administration a été obligée de revenir là-dessus parce que c'était compliqué à gérer. Et c'est pour ça, en fait, en contrepartie du retrait de ce souhait d'interdire les ordinateurs à bord, qui aura au départ de plus en plus de contrôle. Mais effectivement, c'est difficilement applicable.
Une toute dernière question, Grégory, avant de vous laisser, de redonner la parole à Bob Vallier. Dites-nous, remettez-nous tout ça dans l'oreille, où on en est du fameux travel ban, c'est-à-dire l'interdiction de voyager de certaines nationalités.
Alors, ce projet cher à Trump et qui était cher au candidat Trump a été présenté 3 fois, sauf erreur de ma part, à chaque fois remodelé. Pourquoi ? Tout simplement parce que soit un juge local, le dernier c'est à Hawaï, soit la Cour suprême dit que ce n'est pas légal. Et donc Trump, pour l'instant, n'arrive pas à faire appliquer ces travel ban. Il y a eu 3 versions avec 6 pays, puis 8 pays, des pays arabes et musulmans, puis le Venezuela et la Corée du Nord. Mais à chaque fois, ça se fait retoquer. La dernière fois, je vous dis, c'est un juge d'Hawaï qui a réussi à retoquer ça en justice. Donc pour l'instant, ça n'est pas appliqué.
Merci beaucoup, Grégory. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 19h, bien sûr. Bob Vallier, là-dessus, est-ce que le risque, c'est qu'on y revienne à ce fameux travel ban, à cette interdiction de voyager ?
Oui, je prévois qu'il va, par Twitter, sans doute exiger un nouveau travel ban. Et il va ajouter Ouzbékistan à la liste. Alors, qu'est-ce qui se passait il y a même pas un mois? Il a demandé que Tchad soit ajouté à la liste des pays avec des sécurités supplémentaires.
Tout en enlevant l'Irak et le Soudan, autant que je sache.
Oui. Et donc, après, il a ajouté Tchad. Tchad a redéployé ses forces militaires au Niger. Et ensuite, il y avait 4 militaires américains qui étaient tués. Donc, il y a des gens qui le représentent comme le Benghazi de Trump. Et donc, il ne parle pas de ça. Donc, s'il ajoute Ouzbékistan maintenant à la liste, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va avoir un effet sur la stabilité de la région? Est-ce que ça va avoir un effet sur les militaires qui sont déployés partout dans le monde? On ne sait pas. Mais bon, il va continuer de faire sa politique de division et exclusion. Et ça va avoir des effets négatifs pour nous et pour le monde.
Sylvain Sipel.
Je veux juste rajouter un point qui me semble un point important. C'est que, aussi bien aux États-Unis qu'en France et en Europe, il se trouve que dans cet attentat-là, s'il s'agit bien d'un attentat, etc., mais a priori ça devrait être le cas, cet attentat-là a été commis par quelqu'un qui serait arrivé en 2010, selon les informations, aux États-Unis. Mais si on prend aussi bien Orlando que San Bernardino, ils sont commis par des gens qui sont nés ou arrivés très jeunes sur le territoire américain.
Pas seulement le marathon de Boston.
Et le marathon de Boston. Non, le marathon de Boston, ce sont deux frères qui ne sont pas nés. Ils sont tchétchènes. Ils sont arrivés plus jeunes, très jeunes.
Voilà, mais qui faisaient des études, qui étaient intégrés, etc.
Absolument. Donc, si vous voulez, c'est la question, de ce point de vue-là, la question migratoire est instrumentalisée aux États-Unis par Trump de manière similaire à la façon dont elle l'a été en France, si vous voulez, par exemple. Et dans d'autres pays d'Europe. Mais c'est vrai qu'il y a une manière de ne pas vouloir se confronter à une situation très claire, qui est que les attentats sont globalement, je dis bien globalement, commis par des autochtones et non pas par des gens qui sont venus de l'étranger.
Ben, j'ai un chiffre pour vous. Depuis 2014, il y a 130 personnes qui ont été arrêtées pour attentats présumés, actes de terrorisme, qui sont pour les 4/5 des Américains.
Et
donc
oui.
Effectivement,
bien évidemment,
comme chez nous, comme en Europe et ailleurs. Il y a quelque chose qui m'étonne. Est-ce qu'il risque d'y avoir à un moment un problème de renseignement qui peut surgir? Comment se fait-il que cet homme n'était absolument pas dans les radars? Comment se fait-il qu'on n'ait absolument rien vu venir de sa part? Est-ce qu'à un moment ce sujet reviendra? Ça avait été le cas, souvenez-vous, à Boston, au moment des frères Tsarnaïev, justement.
Mais, comment dire, ça a été le cas après le 11 septembre. C'est le cas le plus célèbre, où on a dit que les services n'ont rien vu venir,
ça fait 16
avaient
ans.
Énormément d'éléments entre les mains et n'ont rien vu venir, si vous voulez. Bon, et c'est un sujet qui est récurrent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a ce type d'acte qui est commis, et qui est spectaculaire, avec un certain nombre de morts, etc., la question... des services spéciaux et de la capacité des services spéciaux d'être informés sur ce qui se passe à la fois sur leur territoire ou pour le FBI et pour la CIA dans les territoires d'où sont supposés pouvoir venir les terroristes potentiels, cette question revient à l'ordre du jour. Alors, moi je dirais qu'il y a un autre problème. Il ne vous a pas échappé que actuellement Trump
vous avez parlé de l'enquête russe et de la diversion.
Un gros conflit.
Oui, oui.
Avec les services de renseignement, que ce soit le FBI ou la CIA. Le jour, lors de sa première conférence de presse, il a attaqué bille en tête les uns comme les autres. Et l'affaire russe est une affaire dans laquelle il y a un bras de fer très très dur entre, je dirais, c'est même pas l'administration, c'est Trump lui-même et les risques qu'il encourt et les services spéciaux. À partir de là, tout est possible. Je veux dire, c'est évident qu'il essaye de faire pression sur les services spéciaux, éventuellement dans l'objectif d'un bargaining, dans l'objectif de trouver d'un marchandage qui ferait que, d'une manière ou d'une autre, il leur met la pression et le message qu'il fait passer, c'est « si vous arrêtez de poursuivre votre enquête, vous aurez moins de pression de ma part. »
Bon, Valier, vous croyez à l'hypothèse de Sylvain Sipel, ou au moins à l'idée que le contre-feu, il est là, il est tout prêt, en fait?
Tout est possible avec Trump. Il ne faut pas éliminer n'importe quelle possibilité parce que tout est possible avec lui. Mais là, avec le prosecuteur spécial, je crois que avec le cas là, cet attentat à New York, il va utiliser pour faire une distraction parce que les charges, les informations qu'on a appris là lundi avec le dossier de Mueller sont assez accablantes, en particulier avec le jeune homme Papadopoulos qui était déjà convaincu. Donc je crois que la situation
Papadopoulos qui reconnaît avoir menti au FBI, ce qui est grave.
Donc il travaille maintenant avec le FBI et donc je crois que la situation est assez grave. Il y a des gens dans ses alentours de Trump, y compris son fils et son beau-fils qui, à mon avis, ne dort pas très bien le soir ces jours-ci. Donc je crois que si on laisse travailler est le prosecuteur spécial, on va aboutir à quelque chose assez important. Et si Trump essaie même de réaliser cette hypothèse, ça va constituer une sorte d'obstruction de justice. Et ça va empirer le cas pour lui.
Sylvain Sipel, pardon, allez-y.
Ce que je veux dire, c'est que ce que dit mon confrère est tout à fait, rationnel. Mais je suis pas sûr que Trump fonctionne de manière rationnelle. C'est-à-dire qu'il pense que cette méthode sera la bonne méthode et qu'il faut qu'il impressionne l'adversaire et qu'il faut qu'il le fasse reculer. Je ne suis pas sûr qu'il est capable d'un calcul à trois bandes, si vous voulez. Mais c'est pour ça que je pense que là, il y a un jeu entre les services spéciaux. Le motif pour lequel il a attaqué dès le premier instant les services spéciaux, c'est qu'il savait qu'il avait une faiblesse sur ce terrain. Et donc, il a voulu prendre la main. Aujourd'hui, il a l'opportunité de dire que les services spéciaux ont failli dans cet attentat, comme ils ont failli précédemment, qu'il y a un problème avec les services spéciaux. Je ne vois pas pourquoi, dans la position où il est, il se priverait d'utiliser cet élément-là.
Pour décrédibiliser la police fédérale, c'est tout à fait possible. Il faut regarder ses tweets demain matin pour voir sa pensée à ce sujet-là.
Mais finissez votre phrase, Bob.
Je crois que cette idée de faire une interférence, obstruction, ses avocats les plus proches ont dit que de le faire, c'est vraiment un arrêt de mort. Donc je crois qu'il est assez précautionnel, parce qu'il veut rester à place, là. Donc il veut pas être le président qui est inculpé d'un crime exceptionnel. Donc il va pas faire quelque chose, à mon avis, qui est vraiment, vraiment, vraiment à fond contre ses intérêts.
Sylvain Sipel, puisqu'il nous reste à peine deux minutes, on voit bien la réaction qui a été celle de New York, réaction, j'allais dire, classique, y compris, surtout peut-être dans une ville comme New York, le défilé d'Halloween a eu lieu.
C'est poursuivi.
Le marathon aura bien lieu dimanche.
Absolument.
Cependant, après une réaction comme celle-ci, celle de Trump, est-ce que cet attentat est de nature à diviser encore plus, finalement, les Américains, plus encore qu'ils ne le sont, finalement, dans cette réaction-là, ou est-ce qu'au contraire, il peut quand même se passer quelque chose dans ce pays qui peut ramener les gens un peu ensemble?
J'ai pas de réponse à cette question qui soit évidente. C'est-à-dire qu'il y a des signaux assez contradictoires. Il y a des signaux qui montrent quand même que la crédibilité de Trump lui-même est en dégringolade, vraiment, de manière sérieuse. Et pourtant, tous les sondages qui sont faits, par exemple, les démocrates attendent très clairement les élections qui auront lieu dans un an, ce qu'on appelle
les élections à mi-mandat.
De mi-mandat, oui. Si elles avaient eu lieu aujourd'hui, c'est pas du tout évident qu'ils arriveraient à récupérer les 23 sièges qui leur manquent pour prendre la Chambre, par exemple. C'est possible, mais c'est pas acquis. Il y a des indices dans des sens assez contradictoires. Moi, j'y ai été, là, j'en suis rentré il y a une semaine. Et il faut le dire, il y a le sentiment que le Parti démocrate n'est pas très offensif actuellement contre Trump et qu'il mise tout sur les élections. Beaucoup dépend de la société civile, mais j'ai été dans l'État de New York et au Massachusetts. J'ai pas vu l'Amérique.
Vous étiez cerné par les démocrates, si
c'est comme si j'avais été en Californie. J'aurais vu cette Amérique-là, si vous voulez. Si on veut savoir, est-ce que vraiment Trump a des problèmes, il faut aller, comme j'avais fait une fois précédente, au Michigan, en Ohio, etc.
C'est là qu'il y a... Je suis de Michigan.
Vous êtes du Michigan.
Bah, écoutez,
elle n'aurait jamais dû perdre.
Vous êtes d'accord avec ce que dit Sylvain Sipel, Bob Vallier, on fait un aparté après l'attentat, mais oui, vous n'êtes pas prêts, vous les démocrates, pour l'instant en tout cas, pas encore.
Pour l'instant, mais on est en train de se préparer. Donc il y avait la convention de la Democratic National Convention juste il y a 10 jours à Las Vegas, et il y avait plein de choses qui sont en train de se passer avec le parti. C'est vrai, on n'est pas encore là, mais on est en train de se préparer. Il y a des choses intéressantes qui se passent. Il y a deux élections quand même la semaine prochaine. Les gouverneurs de New Jersey et de la Virginie. Et le problème est que c'est une élection dans une année qui n'est pas électorale. Donc la participation ne sera pas très forte, mais tout jouera sur la participation. élection. Et je crois que les démocrates sont bien positionnés de garder le siège de gouverneur à la Virginie et de regagner le siège actuellement occupé par Chris Christie à la Nouvelle-Jersey. Si on gagne là, ça c'est un bon signe.
Ça sera un bon signe, oui.
Et puis il y avait aussi le Sénat en Alabama. Je crois qu'on va pas gagner là parce que c'est un état très, très rouge. Mais si on arrive au bout de 6 points de différence ou quelque chose comme ça, on peut le considérer un win.
Allez, on verra ça. Puisque une petite trentaine de secondes, moi j'ai une question de droit. J'espère que je vais pas vous piéger, Sylvain Sipel.
J'espère aussi.
Donald Trump dit on fera tout ce qu'on peut pour l'envoyer à Guantanamo. Est-ce que tout ça c'est du bavardage?
Oui.
C'est du bavardage total.
La réponse est oui.
Voilà, techniquement et légalement, c'est impossible.
La réponse est oui.
Et ben voilà, comme ça au moins c'est clair. Sylvain Sipel, merci mille fois. Bob Vallier, merci aussi. Je vois que vous êtes déjà debout parce que vous avez un rendez-vous. Il y a des embouteillages, donc allez-y. Merci beaucoup. Merci à tous. On reparlera
merci
évidemment de tout ça dans le journal de 19h avec Sébastien Power.
France Inter. Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Et la suite d'Un jour dans le monde nous emmène dans le Rif marocain, très secoué en ce moment par des manifestations. Nous allons aussi dans un festival de hip-hop et ça va nous faire du bien. Voici Super Organisme, Something for Your Mind.
I'm a psychopath, Democrat lurking in the dark. This sucks, I'm the Kmart, so jerks hurt to trash. I kept the stash of coca candy straight from Japan. Hologram and she was never as near. Think you know what I need to get by?
Something for your mind. Something for your mind. Mind. Mind.
Mind.
Something for your mind. Something for your mind. Something for your
sociopath, my lovely prey, I'm a cliche. Make way, I'm in my Pepsi mood. Mama needs food, how about a barbecue? For us, the bourgeoisie, so carefree. Remember when we? I don't know why you need to get by.
Something for your mind.
Mind.
Something for your mind.
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 Something for your mind. Something for your mind. Something for your
Super organisme ou sûrement super organism, something for your mind.
France Inter, le 18-20.
Et nous sommes au Maroc. Nous sommes au Maroc dans le Rif, qui est le théâtre de mouvements, de gros mouvements de contestation depuis un an, mouvements réprimés très sévèrement. Et si on y va ce soir, c'est précisément parce qu'on attend là-bas les résultats d'un procès important, reporté de semaine en semaine, le procès des détenus du Irak, le nom d'un mouvement de contestation né dans la ville d'Al-Hoceima, d'où est partie la colère. Bonsoir Stéphanie Wenger.
Bonsoir.
Stéphanie, c'est après la mort d'un jeune vendeur de poissons, certains s'en souviennent, broyé dans une benne à ordures. C'était épouvantable alors qu'il essayait de récupérer sa marchandise que les autorités lui avaient confisquée. C'est après cet événement que les manifestations sont parties. Et depuis, Al-Hoceima s'est fait entendre. Et n'oublie rien, on écoute votre reportage.
À Al-Hoceima, le port de pêche est presque vide. Depuis quelques jours, la mer est agitée et les chalutiers ne sont pas sortis. Quelques clients s'approchent de l'étal d'Ismaïl qui propose sole, crevettes et calamars frais du jour. L'homme se souvient de Mohsin Fikri et fait le bilan plutôt sombre d'une année mouvementée.
Mohsin, je le connaissais bien, c'était un ami. J'ai souvent acheté du poisson chez lui. Qu'il repose en paix. J'ai peur. Comme vous voyez, beaucoup de gens ont été emprisonnés. C'est plus possible de s'exprimer ou de manifester. Ils vont vous enfermer. Il est interdit de parler publiquement. Nous avions des demandes comme des hôpitaux, une université, des emplois, la dignité, la justice sociale.
Dans la ville et sa région, plus de 300 personnes sont en procès. Certains ont déjà été condamnés. Si des faits de violence ont été commis, ils sont rares et la plupart des dossiers concernent des militants ou de simples manifestants. C'est l'opinion de Rachid Belali, qui est seul avec deux autres avocats pour suivre tous ces dossiers.
Et c'est dans tous les cas, on trouve que les détenus d'Al-Hoceima ou bien des personnes d'Al-Hoceima sont condamnés avec la justice qui est très très dure.
Direction Casablanca, une vingtaine de manifestants s'époumonnent devant le tribunal où les leaders du mouvement Hirak sont jugés. Nabil Haamji, qui était en grève de la faim jusqu'à mercredi dernier, alors qu'il pesait 57 kilos, il a décidé de se réalimenter. Son frère fait le voyage chaque semaine, 600 kilomètres, pour le voir à la prison. Un périple pris en charge par le Conseil national des droits de l'homme, mais qui n'emmène pas les familles jusqu'au tribunal.
Toutes les semaines, on va à Casablanca, d'abord pour participer au procès, mais également pour visiter notre frère Nabil. Toutes nos demandes aujourd'hui vont dans le sens de la réparation des injustices sociales. Ce qu'on veut en tant que famille aujourd'hui, c'est à la fois répondre aux demandes sociales du mouvement et de l'autre côté, la libération des prisonniers politiques.
Les autorités tiennent à montrer que leur fermeté n'épargne personne. La semaine dernière, le roi Mohamed VI a limogé trois ministres et d'autres responsables publics pour leur mauvaise gestion de la crise du RIF. À Al-Hoceima, la réponse sécuritaire se double d'un gros effort pour relancer ou accélérer les chantiers. Dans les rues de la ville, les silhouettes de grues et le bruit des marteaux-piqueurs sont familiers. La route qui doit désenclaver la région est terminée à 90% et l'université tant demandée est sur les rails. Autre exemple de ces réalisations, le centre d'oncologie, qui était sous-équipé, a reçu un scanner 3D. Habiba El-Jarmouni s'occupe d'une association d'aide aux malades du cancer.
Il y a une très bonne amélioration. Il y avait des malades qui se déplaçaient pour la radiothérapie ailleurs, à Fès ou à Oujda. Maintenant, ils sont pris en charge ici. Ah, bien sûr, c'est positif. Le Hirak, c'est positif. Bon, de toute façon, pour le scanner, ça a été prévu avant le Hirak. Oui, ça a été prévu.
Mais ça traînait.
Ça traînait, oui, ça traînait.
À la terrasse d'un café qui surplombe la Méditerranée, je rencontre Tarek. L'étudiant en droit public, inscrit à la fac de Tétouan, à 4 heures de route, est aussi le parolier et le bassiste du groupe Sifax. La formation qui fusionne rock et reggada, la musique du RIF, a récemment reçu un prix dans un festival à Casa. Dans ses paroles en amazigh ou en arabe, le groupe s'attaque aux sujets de société et s'est engagé pour les revendications du Hirak.
Ce qui s'est passé ici, pour moi, c'est un exercice de démocratie qui chaque système, ils doivent le faire pour améliorer la démocratie interne.
La musique, elle a un pouvoir particulier ?
Oui, bien sûr, la musique, c'est la langue spirituelle. Qu'on mélange la musique avec des messages qui sont touchants, alors ça devient, la musique, ça devient un coup de pouce incroyable au peuple.
Comme beaucoup de riffins, toute la famille de Sadedine, le guitariste, vit à Bruxelles. Quand le père a fait jouer le regroupement familial, il était déjà majeur, alors il est resté et s'est débrouillé seul. À 27 ans, il aimerait devenir professeur de musique et vivre à Al-Hoceima. mais il comprend ceux qui ont choisi de partir.
Il y a quelque chose qui me pousse, moi et mes amis, à investir cette terre du Rif, malgré les souffrances et les coups que nous subissons. Mais ce n'est pas sans limite. Tu ne peux pas sacrifier toute ta vie pour donner quelque chose à ton pays, alors qu'à la fin, ça ne t'apporte rien personnellement. Et c'est là que tu penses à partir, à émigrer, pour commencer une autre vie.
Saad Eddine garde espoir et l'envie de s'investir pour sa terre du Rif, comme il l'appelle, pour les générations futures. Mais la confiance ne sera pas facile à établir. En effet, à El Hoceima, c'est année troublée à cause des blessures qui restent à vif.
On pourrait créer une association, même sans moyens, pour aider les enfants de la prochaine génération. Mais parvenir à cela, c'est un peu comme réaliser un rêve. Un rêve irréalisable. Pour y arriver, il faut un soutien moral. Un soutien et pas des coups de matraque.
Le reportage est signé Stéphanie Wenger dans le Rif marocain pour Un jour dans le monde.
France Inter, Un jour dans le monde.
Allez, on change complètement d'atmosphère, on change complètement d'ambiance et quoi de mieux qu'un peu de hip-hop. Bonsoir Stéphane Capron.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et vous nous emmenez Stéphane dans deux festivals de hip-hop ce soir qui se tiennent en ce moment, où vont s'ouvrir bientôt. L'un est à Lyon qui se termine dimanche, l'autre est à Créteil qui commence après-demain et qui s'appelle Calypso. Et il y a un point commun entre ces deux festivals, en dehors de la musique, hein, c'est que le chorégraphe est le même pour les deux festivals. Il s'appelle Mourad Merzouki, Stéphane.
Et c'est une star, c'est vraiment l'un des chorégraphes français les plus demandés sur les scènes internationales. Ces spectacles comme Box Box ou Pixel tournent partout dans le monde et Mourad Merzouki se nourrit justement de ses nombreux voyages. Il y fait des rencontres artistiques et ce sera le cas du spectacle qui fait l'ouverture de Calypso vendredi soir à la Maison des Arts de Créteil. Il a retravaillé l'une de ses premières chorégraphies qui s'appelle Récital avec 12 danseurs qu'il a recrutés en Colombie.
C'est une pièce que j'ai tournée très longtemps et que j'aime partager avec de jeunes danseurs que je rencontre dans mes voyages, à la fois pour partager ma sensibilité artistique, à la fois aussi pour proposer aux danseurs hip-hop que je rencontre le fait que le hip-hop aujourd'hui puisse monter sur scène, dépasser l'aspect démonstratif de cette danse.
Qui sont ces danseurs? Comment les avez-vous recrutés?
Ce sont des danseurs que j'ai auditionnés à Cali, à Bogota et à Medellin. Donc c'est une manière aussi de former ces danseurs qui dansent dans la rue ou dans les battles à la scène. Donc j'ai eu grand plaisir à transmettre ce spectacle-là à ces danseurs colombiens qui sont des danseurs talentueux par leur technique, par leur qualité de danseur, mais qui ne connaissent pas forcément les scènes, la scène, qui ne sont pas dans l'écriture. Et donc voilà, j'ai transmis cette pièce et je voulais partager avec le public un de mes spectacles avec d'autres corps, avec une autre énergie, celle de la Colombie.
Est-ce que le hip-hop est populaire en Colombie?
Le hip-hop est populaire en Colombie, mais partout dans le monde. On trouve du hip-hop dans n'importe quel pays aujourd'hui. Après, il y a une singularité en France. C'est l'un des rares pays qui a su accompagner le hip-hop sur la scène. Et aujourd'hui, ce que l'on essaye de faire les uns et les autres, c'est de pouvoir montrer au public du monde entier que le hip-hop peut avoir cette évolution de la rue à la scène et toucher tous les publics, pas simplement les jeunes, pas simplement les quartiers.
Et le hip-hop, Fabienne, ben aujourd'hui c'est un art de mixité sociale. Dans les théâtres qui quelquefois sont un peu bourgeois, c'est le seul capable de rassembler les blancs, les noirs, les jeunes, les vieux, les habitants du centre-ville et les habitants de la banlieue. C'est parce que c'est un art qui brise les frontières. Par exemple, dans Box Box, qui est vraiment l'un des plus grands succès de Mourad Merzouki, bien, il fait danser des boxeurs au rythme d'instruments à cordes sur une partition de musique classique. Ben voilà, c'est fédérateur parce que ça concerne tous les publics.
Et en plus, le hip-hop, Stéphane, se marie très bien avec la danse traditionnelle et c'est ce que nous montre le fameux festival Calypso.
Alors, par exemple, dans un spectacle qui s'appelle Step by Steps, il est né de l'imagination du chorégraphe français Kim Masselu. Il a des origines mongoles. Et son spectacle, d'où la step, que l'on pourra voir dimanche après-midi à Cergy-en-Pontoise, eh bien, c'est une rencontre assez inattendue entre les rythmes urbains du hip-hop et l'instrument traditionnel mongol. Moi, je le connaissais pas. Il s'appelle le morinkur, dont on entend quelques notes. Alors c'est un instrument à cordes avec une caisse de résonance en forme de trapèze avec un très très long manche et il y a au bout juste deux cordes en poil de queue de cheval. Vous voyez, Fabienne, le hip-hop, bah, ça mène à tout.
Eh ben, merci beaucoup, Stéphane Capron. Le festival Calypso, tiens, c'est jusqu'au 22 décembre, Stéphane. 36 compagnies, 18 lieux, tout ça en Ile-de-France, 63 spectacles au total. Merci beaucoup. Il est 18h55. Et la chronique du journal Le Monde avec vous, Sylvie Kaufmann, bonsoir.
Bonsoir.
On boucle la boucle avec vous en revenant à New York. Nous avons entendu, donc on en parlait tout à l'heure, les réactions de Donald Trump à cet attentat. Que nous disent-elles, Sylvie, de sa vision des relations internationales?
Ce sont des réactions plutôt simplistes, un peu brutes de décoffrage, si vous voulez, qui reflètent une vision assez primaire, très unilatérale de la politique étrangère. Car que nous dit le président des États-Unis en réalité depuis hier, depuis que cet attentat a été commis? Donald Trump a d'abord accusé l'immigration et un programme de visa qu'il juge laxiste. Il a demandé de renforcer le contrôle des étrangers, il a évoqué Guantanamo et il a déclaré qu'il ne fallait pas permettre à l'État islamique d'entrer aux États-Unis après l'avoir vaincu au Moyen-Orient. Alors si vous me le permettez, je voudrais m'arrêter sur cette dernière phrase de Donald Trump car elle est importante, même si l'on ne peut pas être sûr qu'il en ait mesuré toute la portée. Je le cite, « Après avoir vaincu l'État islamique au Moyen-Orient ou ailleurs ». Pour Donald Trump, donc, l'État islamique a été vaincu. Je suppose qu'il fait allusion à la chute de Raqqa, cette ville de Syrie qui était le bastion des djihadistes de Daesh et qui a fini par tomber il y a deux semaines. On peut imaginer qu'il pense aussi à la chute de Mossoul, reprise un peu plus tôt par l'armée irakienne, aux combattants de l'État islamique ou encore à la fin du siège de Marawi aux Philippines. D'autres pays, dont la France, ont participé à ces batailles et pourtant, vous n'entendrez aucun dirigeant européen dire que Daesh est vaincu en dépit de ces bonnes nouvelles.
Voilà, alors justement, Sylvie, pourquoi est-ce que les partenaires des États-Unis se montrent bien plus nuancés dans leur jugement?
Pourquoi? Parce que même si Daesh n'a plus de califat ou de base territoriale cohérente, si vous voulez, les dirigeants européens et asiatiques savent que la guerre contre le djihad n'est pas gagnée, que c'est un combat de longue haleine, que le djihad peut réapparaître ailleurs, sous un autre nom ou sous une autre forme, comme Daesh est apparu quand on pensait s'être débarrassé d'Al-Qaïda. Ce n'est pas un combat sans fin, mais c'est une guerre qui prendra du temps, qui ne dépend pas que du contrôle de l'immigration aux États-Unis, car elle a beaucoup à voir avec le grand conflit qui se joue au sein du monde arabo-musulman.
Et alors, quelle solution préconise donc Donald Trump à cet égard?
Eh bien, aucune qui soit cohérente, et c'est bien le problème. Trump a transposé à la politique étrangère son grand slogan électoral « America first », l'Amérique d'abord. Ce qu'il prône sur la scène internationale, c'est le repli, la logique des rapports de force et l'unilatéralisme. En moins d'un an, les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris sur le climat, ils ont dénoncé l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien et ils ont décidé de quitter l'UNESCO. L'Amérique de Donald Trump se méfie de l'ONU et tourne le dos à une longue tradition américaine d'engagement international. Or, les Européens et tout particulièrement la France, qui a noué une étroite coopération antiterroriste avec les États-Unis, sont convaincus d'une chose. Les grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, au premier rang desquels le terrorisme, ne peuvent être affrontés qu'à plusieurs, ensemble, en s'appuyant sur les outils multilatéraux. Donald Trump, lui, fait la sourde oreille. Il ne se rend pas compte que America First est en passe de se transformer en America Alone et que l'Amérique d'abord sera bientôt l'Amérique toute seule.
Sylvie Kaufmann du journal Le Monde, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup et à très vite. Le 18-20 continue. On reste aux États-Unis, bien sûr, dans le 19h de Sébastien Paour. Et puis 19h20, le téléphone sonne avec Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, qui répond à toutes vos questions.